France au désert, le don d'un territoire à Canaan pour 450 ans, nous avons entendu, et notons au passage quelque chose de terrible. Ce territoire fut donné au prix de la destruction de 7 nations ou 7 grandes tribus. Est-ce que l'Israël d'aujourd'hui s'appuie sur ce genre de texte pour coloniser la Palestine? Continuons avec Paul. Il signale les juges, ces chefs de peuple dans la période qui va de Canaan à la royauté. Puis il parle de Saül, de David. Et enfin, Paul cite Jésus au verset 23. L'un des descendants de David fut Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, comme il l'avait promis. Jusque-là, les auditeurs de Paul écoutent, suivent et acquiescent. Que ce soit l'Égypte, le désert, Canaan, les rois, dont David, qui est une valeur sûre, pas de problème pour entendre cette histoire bien connue, lue et relue dans les rouleaux de la synagogue. Paul leur démontre ainsi qu'il est des leurs. Puis Paul aborde l'actualité. Il cite Jean-Baptiste et interpelle l'auditoire. « Frères, vous les descendants d'Abraham, et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. » Cela fait dresser l'oreille. Alors Paul fait une mise au point. À Jérusalem, on n'a pas compris Jésus. On n'a pas compris les paroles des prophètes qui annonçaient le Messie. Par contre, habitants et chefs religieux ont accompli les paroles des prophètes en faisant condamner Jésus à mort. Et maintenant, Paul témoigne au verset 30. Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Paul témoigne de la présence de Jésus après sa résurrection. Il fait le lien entre les récits anciens et la résurrection de Jésus. Et il annonce la bonne nouvelle. Frères, vous devez le savoir. C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que quiconque croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. C'est un coup de tonnerre. C'est une annonce stupéfiante, une sorte de révolution. Jésus est plus fort que la loi de Moïse. Ses 10 commandements divins, reçus sur le mont Sinaï et encadrés par de multiples obligations, comme on peut le lire dans le Lévitique. Les Juifs pieux avaient bien conscience de leur incapacité à être purs, sans reproche, dans leur vie quotidienne. Et voilà que Paul leur annonce le pardon donné par Jésus. Alors l'auditoire veut en savoir plus. Plus d'explications sur les annonces des prophètes. Plus de connaissances sur ce Jésus et son enseignement. Il faut que Paul et Barnabas reviennent au sabbat suivant. On peut imaginer que ce coup de tonnerre a fait parler toute la semaine, sur les marchés, sur les places, comme dans le salon des bourgeoises. Et puis, imaginez un peu. Si les lois datant de Moïse ne sont plus les critères absolus, où est le monopole, le pouvoir des chefs religieux qui pouvaient réprimander, exiger des réparations, des sommes d'argent? Pensez aux indulgences que Martin Luther mit en cause, provoquant la réforme. Nous avons ici une démonstration de discours devant une foule. Elle est d'abord acquise à l'orateur. Celui-ci parle avec les mots utilisés, connus par l'auditoire. Puis le discours devient différent, novateur. Alors il n'y a plus qu'une partie des auditeurs qui suit. Ceux qui sont en quête d'une parole qui ouvre, qui libère, tandis que d'autres tiennent à leurs rituels ancestraux et obligatoires Il ne faut pas les déranger. L'invité a osé déborder les spécialistes. D'où les violences, la jalousie, la colère, les insultes, les pierres. D'ailleurs, dans le texte de Jean, Jésus aussi est rejeté et chassé à coups de pierre. Paul annonce alors qu'il va aller vers les non-juifs, et c'est par lui principalement que la religion chrétienne va se séparer du judaïsme et aura vocation à devenir universelle. Pourrait-on dire que Paul est un lanceur d'alerte ? Je vous propose maintenant de réfléchir quelques instants sur les mots que nous employons, sur les images que les mots suggèrent en nous. D'abord, une toute petite anecdote. Nous sommes en famille, trois personnes, et vient le mot « étamine ». Pour l'un, intéressé par tout ce qui est culinaire, l'étamine sert par exemple à égoutter le fromage. Pour l'autre, dans la couture, c'est une étoffe de laine très fine. Et pour moi, l'étamine se trouve dans une corolle de fleurs, butinée éventuellement par les abeilles. Un mot, trois personnes, trois images différentes. Prenons un autre exemple. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils du G7. À cette occasion, les comités d'entreprise d'Annecy, les MJC, s'étaient regroupés sous le nom d'Alias et proposaient des découvertes culturelles, par exemple les magnifiques calligraphies d'Hassan Massoudi ou le film indien appelé La Roue, mais aussi des conférences-débats. Et j'avais été frappée par un orateur qui naviguait dans les hautes sphères de la finance et de ce qu'on appelait peut-être pas encore les multinationales. Il nous avait expliqué combien le vocabulaire utilisé dans ces hautes sphères était à des années-lumière de notre vocabulaire à nous. Il était question de ratio, de marge, de courbe et bien d'autres termes techniques. Et nous, ceux de la base, les producteurs, les travailleurs, nous apparaissions éventuellement comme des effectifs, comme des chiffres. C'était un vocabulaire déshumanisé. Encore un autre exemple. Avec Superphénix, cette centrale nucléaire superbe que l'on devait construire dans l'Ain et qui finalement n'a pas été construite. Lors des manifestations autour de Superphénix, un petit groupe était parti avec le pasteur Joudrier pour partager un moment œcuménique et d'échange avec les habitants du village attenant à la zone concernée. Auparavant, je n'avais pas particulièrement réfléchi au problème nucléaire. Mais s'il y avait un accident, le nombre d'années où le sol serait interdit, divisé par le temps d'une génération, s'étalerait sur 17, 23 générations, je ne sais plus le chiffre exact. Cela m'avait sauté à la figure. Notre mémoire vivante, que nous pouvons transmettre oralement à notre descendance, elle s'étend sur 4, peut-être 5 générations. Alors avec 17 ou 23 générations, nous étions dans l'inhumain. Il fallait réagir, être vigilant face aux techniciens 6 sur 2, les obliger à être prudents. Comme il nous faut être vigilants face aux lobbyistes, au vocabulaire orienté, qui pense aux bénéfices bien avant de penser aux hommes s'ils y pensent. Et dans les débats de la société actuelle, quand on parle d'amour et de couple, quel qu'il soit, avec un engagement sincère et dans la durée, n'est-ce pas cela qui prime, qu'il faut protéger, alors que des robots seront bientôt à nos portes ? Et dans notre vocabulaire religieux, sommes-nous toujours clairs ? Quelqu'un entrant dans le temple, un peu par curiosité, entend parler de l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un agneau est sans défense ? Est-ce un agneau alimentaire ? Pour ceux qui connaissent le vocabulaire biblique, l'agneau de Dieu, bien sûr, c'est Jésus. Mais pour les autres, est-ce un charabia incompréhensible? C'est un vocabulaire commun qui crée une communauté. D'ailleurs, quand on déménage et qu'on vient dans un lieu nouveau, ça peut être, la paroisse peut être un lieu d'insertion en premier. Mais sommes-nous toujours sûrs que les images suggérées par les mots que nous avons en tête sont les mêmes pour tous? Si nous voulons être ouverts aux autres, il nous faut prendre du temps pour nous écouter vraiment, le temps de nous approcher de l'autre pour essayer de le comprendre. Sinon, il peut y avoir incompréhension et colère. Faisant partie des plus anciens de la paroisse, je voudrais rappeler aussi qu'il y eut une liturgie lourde, désuète, appelée liturgie verte par la couleur de sa couverture. Et avec le pasteur Gilles Pivot, chargé de renouveler cette liturgie, nous avons été une paroisse expérimentale pour la liturgie actuelle. Quelle joie d'employer des mots simples qui nous parlent, qui sont proches de nous. Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Comme on se sent accueilli par ces paroles. Alors ces quelques illustrations par rapport au texte des Actes voudraient insister sur la nécessité de s'éclairer mutuellement sur les mots et les images que nous avons en tête dans nos diverses rencontres. D'ailleurs, quelle difficulté avons-nous à être évangélisateurs, c'est-à-dire tout simplement à témoigner de l'influence des paroles de Jésus dans notre vie, à parler de la prière, à dire la confiance dans celui qui nous accompagne. La croix protestante est nue parce que Christ est ressuscité. Il nous appelle à être des veilleurs pour discerner dans l'avalanche des informations ce qui est humain, ce qui donne de l'espoir, les causes à défendre. Paul ne pouvait pas renoncer à parler de Jésus et de la bonne nouvelle. Il en a eu le courage encore et encore. Que le Seigneur nous aide à ne pas baisser les bras alors que nous parlons d'espérance. Amen.